Quelle salle ! Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous recevoir, de discuter avec vous aujourd'hui. Panayotis Pasco, vous êtes humoriste, on peut voir encore votre spectacle sur Netflix. Et vous avez écrit, en cette rentrée littéraire, un texte très remarqué, « La prochaine fois que tu mordras la poussière » chez Stock, un récit très personnel. Baptiste Beaulieu, vous êtes médecin et écrivain. On vous a découvert il y a maintenant quelques années, et depuis on vous lit souvent, et dans des livres et sur les réseaux sociaux, et récemment avec un ouvrage chez l'Iconoclaste, Où vont les larmes quand elles sèchent ? Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Il y a une phrase dans votre livre, Panayotis Pasco, avec laquelle j'ai envie de commencer parce qu'elle fait tout de suite écho au livre de Baptiste Beaulieu.
Je sais laquelle vous allez nommer.
Évidemment, le pont est tellement cadeau qu'on va, on va le faire tout de suite. C'est cette phrase, que deviennent les larmes qui n'ont pas coulé ?
Oui.
Vous dites ça dans votre texte.
Oui.
Alors bah, j'ai envie de vous la poser, cette question. Est-ce qu'en écrivant ce livre, elles ont coulé ces larmes et qu'est-ce qu'on fait quand elles ne coulent pas ?
Pas encore, mais j'attends le moment où je vais m'effondrer. C'est pas pour tout de suite, mais effectivement, on pourra en discuter pendant plein de moments, parce que dans votre livre, le personnage est bloqué et n'arrive pas à pleurer. Et effectivement, en écrivant ce livre, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'écrire parce que j'arrivais pas à sortir certaines choses qui avaient besoin de sortir.
Ça a été le moteur de l'écriture,
c'était quelque chose qui voulait pas sortir, c'était une espèce de magma brûlant qui était à l'intérieur de moi et qui stagnait.
Comment vous en êtes rendu compte que ce serait mieux qu'elles sortent, ces larmes ?
Je m'en suis rendu compte parce qu'au bout d'un moment, les larmes, ça empêche, je pense, d'avancer si elles sortent pas. Et effectivement, j'avais cette impression d'avoir plein d'événements vécus qui me ralentissaient, en fait, qui ne me permettaient pas d'avancer. Et je pense qu'à un moment, on a besoin de... Moi, c'est comme ça que je fonctionne, d'écrire ou de sortir, d'exulter pour pouvoir avoir des bagages moins lourds pour continuer la route.
Baptiste Beaulieu, ça commence exactement comme ça, votre livre, en fait. Vous êtes un médecin qui n'arrive pas à pleurer. Et c'est ce que vous racontez dans les premières pages. Vous aussi, ça a été un déclencheur.
Je pense qu'il y a toujours un moment dans la carrière d'un médecin, souvent au début de sa carrière, où il est confronté à la question du mal. C'est pourquoi le mal touche, y compris parfois des personnes innocentes, et notamment des enfants, comme c'est écrit dans le bouquin. Et personne n'a de réponse à ça. Et moi, j'étais confronté à ça durant mes études. Et ça a été une sorte de... Vraiment un coup de hache vraiment dans ma réalité, en me disant, mais pourquoi ce gamin est mort ? Voilà, je n'arrivais pas à l'accepter.
C'est ce que vous racontez au début du livre, oui. Peut-être pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu.
C'est un gamin qui a fait une crise d'épilepsie et la maman, en appelant le SAMU, était tellement perturbée, c'est normal, c'est son fils, qu'elle a inversé le 4 et le 2. C'est-à-dire, au lieu de dire 42, elle a dit 24 au niveau de l'adresse, sauf que moi, c'était dans le Gers à l'époque. Et le Gers, c'est grand, et donc au lieu d'arriver en 5 minutes, on a mis 10 minutes, mais c'était trop tard, quoi. Le gamin est parti. Et je n'arrivais pas à comprendre comment, par amour, on peut se tromper comme ça. Et ça, je l'entends, mais comment, si Dieu existe, il peut laisser faire ça ? C'est-à-dire, soit il est tout puissant et il n'est pas tout bienveillant, soit il est tout bienveillant, mais alors dans ce cas-là, il n'est pas tout puissant puisqu'il a laissé ce gamin mourir. Quoi. Et on trouve, il n'y a aucune réponse, nulle part. Et les religions, elles apportent des réponses, mais qui sont toutes très factices, voilà, qui ne tiennent pas la route. En tout cas, pas quand on est confronté à ça pour de vrai, quand on a les mains sur ce gamin qui est en train de mourir, non, aucune réponse ne tient. Et... J'ai plombé l'ambiance, je suis désolé. Pardon.
Non, mais on rentre tout de suite.
Ton job.
Alors j'ai une blague tout de suite.
Bon, en tout cas, c'est comme ça que vous commencez le livre. Donc effectivement, on sent aussi que c'est un point de départ. Cette prise de conscience, elle vous est insupportable. Et c'est ce que vous avez envie effectivement de déployer à travers tous les récits ensuite que vous partagez, qui sont pour le coup des récits très, très humains, très humanistes, avec aussi de l'humour, puisque vous croquez plein de personnages qui sont vos patients et vos patientes dans un cabinet.
Ben, moi du coup, après cet événement, j'ai arrêté mes études. Sur un coup de tête, je suis parti à Rome, j'avais besoin de verticalité en me disant voilà, je trouverai des réponses.
Et pourquoi de verticalité, c'est-à-dire ?
J'avais envie de réponse. Alors je me suis tourné, je suis parti coup sur coup à Rome puis Jérusalem. Je crois qu'on peut pas faire plus religieux que ça. Il manquait la Mecque et c'était bon, j'ai tout coché. Mais et je pars à Rome sur un coup de tête. On était en février, bon, j'étais persuadé qu'en Italie il faisait tout le temps chaud, donc je débarque en tongs et en short à Rome en février. Je pleurais, j'étais pas bien. Et toi, à cause de ce gamin, j'ai dit, ah ben non, en fait il fait froid en février en Italie. Effectivement, il neigeait. Et je rentre dans une boutique pour acheter une peau retournée parce que j'avais besoin de chaleur. Quoi. Je prends mon premier manteau qui tombe, 50 euros, un truc qui coûtait normalement 300 balles, une peau retournée magnifique et tout. Et je la porte et puis au bout de 3 jours, je commence à me gratter partout. Je me dis, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Et puis sous la douche, je vois des trucs sauter entre mes poils. Là, je me dis, oh mon Dieu ! Et puis, alors, j'attrape la peau retournée, j'écarte les poils à l'intérieur et j'ai compris pourquoi je l'avais payé que 50 euros. Mais j'ai dû me raser de la tête aux pieds et ça m'a fait du bien à ce moment-là de ma vie en fait. Je me suis retrouvé nu comme un verre, comme le premier jour de ma naissance. Je dis, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé avec cet enfant, et là, c'est comme si tu étais remis au monde.
C'est un nouveau départ.
C'est un nouveau départ, voilà.
Cette question aussi des larmes qui ne coulent pas, Panayotis, elle est vraiment liée dans votre livre à la question de la masculinité, la construction sociale de la masculinité, la manière dont vous avez été socialisé en tant que garçon. C'est quelque chose aussi que vous avez envie d'interroger dans ce texte, à travers la figure de votre père. Ouais. Pourquoi, du coup, c'était aussi important de lier cette question des larmes à votre identité en tant qu'homme?
Parce que je pense, comme beaucoup de jeunes hommes, j'ai été éduqué par un père qui nous a appris à ne pas être vulnérable, qui nous a appris à toujours être en contrôle de la situation. Et pleurer, je pense que c'est une perte de contrôle ultime. Pleurer, c'est jouir, mais des sentiments, c'est laisser les choses vous contrôler, vous dépasser. Et effectivement, j'arrivais pas à faire ça, et j'arrivais pas à me laisser être pénétré en fait par le monde extérieur. Et je pense que pleurer, c'est être pénétré quelque part par le monde extérieur. Et j'avais envie de questionner tout ça.
Ouais, c'est aussi s'autoriser effectivement à un lâcher du corps.
Exactement.
Et c'est vrai,
exactement.
Quand vous parlez de votre père, on sent dans son portrait quelque chose de très tenu,
de très tenu, de
très intériorisé.
Oui.
Et peut-être que c'est la maladie qui
le traiteuse. Je sais pas. Il a toujours été comme ça. Je pense que c'est
non, mais justement qui le déplace dans le livre.
Ah oui,
le fait d'être malade,
ah, oui,
et
oui,
double de votre relation, puisque effectivement vous racontez dans le livre la maladie de votre père, il vous annonce qu'il risque de mourir.
Oui.
Et ça vient déplacer beaucoup de choses dans votre relation, et lui aussi dans son rapport aussi à sa propre masculinité.
Oui, exactement. Bien sûr. Bah oui. Bah d'un seul coup, on se rend compte qu'on est une chose qui va disparaître, et donc d'un seul coup, le présent vous paraît être un cadeau. Et je pense, moi, je l'ai découvert vivant à partir du moment où il apprend qu'il va peut-être bientôt mourir. Je le découvre vivant pour la première fois. Je le vois faire de la nourriture, plus seulement pour faire de la bouffe pour sa famille. Je le vois mettre un bout de son âme dans de la bouffe et nous regarder foutre ce bout d'âme dans le gosier. J'ai vraiment l'impression de le voir d'un seul coup pétillant. Et c'est marrant, moi, je raconte dans ce livre, je traverse une grosse dépression. Je suis en queue de dépression, je suis en train d'en sortir, mais ça m'a rapproché de la mort énormément. C'est une dépression très suicidaire, donc avec des pensées très, très compliquées. C'est à moi de plomber l'ambiance cette fois-ci.
Chacun son tour.
Chacun notre tour. Et ça nous a rapprochés, ça nous a connectés, parce que tous les deux, on était proches du précipice. Il y avait quelque chose de très particulier dans notre rapport. Et ça a été, je pense, très cathartique pour nous deux de discuter, même après la sortie de ce livre.
Cette question de la masculinité et de ces violences, c'est aussi quelque chose dont vous êtes beaucoup témoin au cabinet, qui prend une vraie place dans votre livre. Je ne m'y attendais pas forcément en le commençant, mais en fait, je trouve que c'est un vrai fil que vous tirez, parce que vous êtes témoin de nombreuses scènes à travers vos patientes, normalement, notamment de la mise en jeu de l'expérience des violences masculines.
Je ne peux plus les voir.
Parce que vous dites très, très fort dans le livre.
Ah, moi, ça fait 10 ans que je suis médecin généraliste. Si je pouvais soigner que des femmes ou des homosexuels, ou enfin, en tout cas, pas des hommes hétérosexuels, voilà, ils me gavent. Je peux plus les voir, je les supporte plus. Mais je m'explique, mais
oui, détaillé.
Enfin, ils sont d'une violence. Je ne sais même pas s'ils aiment. Est-ce qu'ils aiment? Je veux dire, quand les femmes, elles viennent, elles sont épuisées, elles font tout à la maison. Elle s'occupe de la charge mentale, sanitaire aussi de la maison, parce que c'est elle qui connaît les dates de vaccination. Les maris ne savent pas. Attendez, j'appelle ma femme. Parfois, c'est quoi l'anti-hypertenseur que vous prenez? Je ne sais pas, j'appelle ma femme. Mais vous le prenez depuis 20 ans. Et c'est comme ça, mais tous les jours. C'est tous les jours. Alors, au bout d'un moment, on se dit, il y a quand même un schéma qui se dessine, là, quand même. De gros connards, ils sont nombreux. Hein. Et au final, moi, je ne suis plus du tout le même. Quoi. Au début, j'étais d'aucun combat. Au début, je m'en foutais. J'étais quelqu'un de très privilégié et tout. Et maintenant, au bout de 10 ans, je ne peux plus les voir, je les supporte plus. Quand on a une patiente qui vient et qui est tout le temps maquillée, qui est toute mignonne et tout, et qui un jour arrive, elle a 80 ans, elle me dit voilà, j'ai décidé de divorcer, j'ai 80 ans, voilà. J'ai dit oui, parce qu'il m'a battue toute ma vie, alors on comprend pourquoi elle était maquillée, et je veux pas être enterrée à côté de lui. Voilà, elle me dit la vie a été horrible avec lui, mais je supporte pas l'idée de passer l'éternité à ses côtés. Voilà, mais c'est que des exemples comme ça. Alors,
et c'est quotidien, on a l'impression dans le livre que c'est quotidien.
Il n'y a aucune femme qui va venir me dire « mon mari fait la vaisselle, il fait sa part, et je vais vous donner 25 euros pour vous avoir dit ça ». Non, ça n'arrive pas. Donc je reconnais que c'est une passoire, mais au bout d'un moment, c'est dur. C'est dur. Je pense qu'on ne se rend pas compte d'être une femme ou appartenir à une minorité. Quand on a un gamin qui arrive qui nous dit, voilà, moi j'ai 17 ans, ils m'ont cassé la gueule dans la rue parce que j'étais avec mon copain, ils m'ont obligé à m'excuser d'être homosexuel, et qui nous dit ça en pleurant, je dis, on ne supporte pas toute cette violence. Quoi. Et cette violence, elle est toujours genrée, c'est-à-dire elle est toujours dirigée soit vers les femmes, soit vers sur un plan sociologique, la femme supposée en homosexuel. C'est, voilà, c'est ça qu'ils ont voulu casser cette nuit-là, chez ce gamin. Quoi, là. C'est cette part-là.
L'homophobie, c'est de la misogynie
déguisée. Mais oui, mais bien sûr, l'homophobie, c'est une des formes du sexisme, évidemment. Quoi. Et je, voilà, moi, quand on a une femme qui... Elle a la ménopause, plus un cancer du sein, elle prend sa chimio, son hormonothérapie, et son mari qui arrive en disant, écoutez, elle veut plus faire l'amour, j'ai même plus droit à des caresses de dépannage. Il me dit comme ça. Oh, je dis, c'est de quoi il parle? Il est en train de parler de ce que... Quoi, si, il parlait de ça. Et je dis, mais où est l'amour? Où est l'amour? Je vois pas l'amour dans tout ça.
Mais c'est quelque chose que vous racontez par rapport à votre père aussi, Panayotis, la difficulté à dire l'amour en tant qu'homme, à s'autoriser à la dire.
Alors, il n'y a pas eu de caresse de dépannage entre nous. Je tiens à préciser, parce que un pont a été fait, et je me disais, la transition n'est pas exacte.
Non, je pensais à cette idée, effectivement, vous dites, où est l'amour? Aussi, c'est effectivement ces figures d'hommes qui s'interdisent, qui s'empêchent de dire je t'aime, qui s'empêchent d'aimer. C'est pas pour les défendre, hein, mais je tire ça de ce que vous racontez là aussi, par rapport à ces hommes. Et c'est quelque chose qui est hyper important dans votre livre.
Oui, parce que l'amour, c'est pas nécessaire, je pense. C'est-à-dire que pour vivre, pour évoluer, l'amour n'est pas nécessaire. L'amour, c'est un bonus qui vous pénètre, qui vous remplit. Et je pense que beaucoup de gens se disent que l'amour, ça passe par la routine. Je pense que c'est quelque chose d'acquis pour beaucoup de personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression, en tout cas, que pour un père de cette génération, l'amour, c'est quelque chose d'acquis. J'ai des enfants, je les aime, c'est normal, c'est mes enfants, c'est moi qui ai fécondé ma femme, des enfants sont arrivés, je les aime. Mais je pense que l'amour, c'est autre chose. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose dont on a besoin.
Et qui se dit.
Et on en a besoin, mais c'est pas nécessaire. La nuance, elle est très étrange. Et je pense, moi, quand j'apprends que mon père est malade, je lui en veux. C'est très étrange, mais je lui en veux. Je veux un pardon.
Défaillant. Ah.
Je veux un pardon. Et j'ouvre le livre avec ça. Je veux un pardon. J'avais l'impression déjà d'avoir été colonisé par lui parce que j'ai un père très très charismatique, incroyable. Qui est très charismatique, qui est très fort, qui est très séduisant, qui est un astre autour duquel c'est compliqué de ne pas graviter. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, quand il m'annonce ça, mon premier réflexe est de lui en vouloir. Et de me dire, j'ai l'impression que tu m'as amputé d'un membre qui est le membre de l'amour, en fait. Et je ne savais pas comment le faire repousser. C'était très étrange comme sensation.
Et vous terminez tous les deux votre livre sur un geste d'amour, sur un geste d'affection. Oui. Une embrassade, une accolade dans un sauna et avec votre père. C'était important pour vous que l'horizon de vos livres, ce soit ça, un geste d'amour, d'affection?
Moi, j'avais surtout envie d'écrire un grand livre humaniste qui finisse dans un sauna gay. C'est un geste politique. Voilà. Non, il y a cette scène qui était casse-gueule à écrire, mais qui, je crois, est réussie aussi, voilà, où il y a juste ce geste de pure tendresse totalement désexualisé, où cet homme est tendre envers un autre homme pour rien, c'est-à-dire sans attendre quoi que ce soit en retour. Et je crois qu'on en manque un petit peu dans notre société de gestes comme ça, de gestes de tendresse pour rien.
Voilà. Désintéressé, bah oui, mais je pense que c'est la part la plus importante de l'amour, c'est que c'est censé être désintéressé. Et c'est ça qui est dur quand on est dans une position de contrôle tout le temps, c'est que rien n'est désintéressé quand on est dans le contrôle. Mais moi, j'avais besoin de terminer par une accolade, parce que, pour être très honnête, moi, j'ai une fâcheuse tendance à toujours tout intellectualiser, à trop réfléchir et à passer des nuits entières à fixer mon plafond. Et quand j'apprends que mon père va mourir, un de mes amis avec qui j'en discute, beaucoup plus âgé que moi, beaucoup plus sage que moi, me dit « il faut que tu tues ton père avant qu'il meure. C'est hyper important. S'il meurt et que tu ne l'as pas tué psychologiquement parlant, il va te hanter toute ta vie. » Et du coup, je me rapproche de lui quand j'apprends qu'il va mourir. Je retourne à la campagne pour le voir, pour essayer de passer du temps avec lui, avec cette ambition très étrange, très, très égoïste d'ailleurs, de vouloir le tuer. Donc je me rapproche de lui alors qu'on s'était un peu séparés, on avait mis de la distance dans nos vies, avec un couteau dans le dos. Et en m'approchant, je me rends compte que j'ai juste envie de lui faire un câlin, parce que c'est un homme extraordinaire. Et surtout, c'est un homme, c'est pas qu'un père. Et je pense que tuer son père, c'est mettre de l'horizontalité, c'est se rendre compte que c'est un homme avec des failles, qui a été éduqué par un autre homme avec des failles, qui a été éduqué par un autre homme avec des failles, qui a été éduqué par Jésus, sûrement. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais. Et c'est intéressant d'essayer de couper cette filiation-là.
Exactement.
De la rompre.
Exactement. Et je parle de mon père, je parle aussi beaucoup de ma mère dans le livre.
Oui, effectivement. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup, effectivement.
Sur... Oui, bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez à dire alors? Qu'est-ce que vous avez envie de dire de votre mère dans ce livre?
Ben, ma mère, elle a... Ben, c'est marrant, moi. en lisant votre livre, quand vous parlez de votre amour en tant que médecin, enfin l'amour de votre personnage en tant que médecin, de déboucher les oreilles ou de faire sortir des choses. Moi, j'ai un rapport avec ma mère qui est très comme ça.
Il faut que j'explique.
Elle a cette passion de du corps, d'être tactile, de vouloir retirer les boutons, de vouloir. Donc c'est marrant, je me suis reconnu avec ma mère là-dedans. Mais c'est quelque chose de très touchant au final, c'est essayer de refaire fonctionner un corps.
Oui, et puis de soulager l'autre directement. Quoi.
Exactement. Et ma mère, je pense que c'est ça son rôle dans la famille, c'est de soulager l'autre en fait. Elle a cette espèce de. C'est elle qui porte la famille sur ses épaules et elle se place toujours avant les autres et elle a toujours cette force extraordinaire. Et moi, je me rends compte que je suis trop égotique pour ça, mais de se mettre au service des autres pour les soulager. Je trouve ça extrêmement fort. Et dans le livre, j'ai un chapitre entier sur ma mère. Qui a cette faculté à garder tout le temps tous les éléments du passé en fait. Elle a la maladie de l'écureuil en fait, le syndrome de l'écureuil, donc elle garde tout dans des cartons. La maison est rongée par les cartons de partout. À chaque fois qu'on veut aller accéder à une pièce, faut découper les lianes à la machette pour y accéder.
Et elle garde tout le passé. Mais parce que c'est aussi, on parle effectivement de construction sociale des hommes, mais ce que vous décrivez là, c'est aussi une construction sociale des femmes. C'est ce qu'on appelle la charge affective.
Bien sûr.
En fait, la mémoire, ce souvenir, c'est aussi faire attention aux dates d'anniversaire, aux événements passés.
Nous, on a un groupe WhatsApp où une fois par mois, elle dit c'est l'anniversaire de Tata Poupoule.
Je pense qu'on a tous et toutes ça.
Bien sûr.
C'est les mères qui se souviennent des anniversaires.
Bien sûr.
Ce serait bien que les hommes s'en souviennent aussi. Ça les rendrait heureux, je pense.
Oui.
Ils ne se souviennent pas de la date de leurs propres enfants, de l'anniversaire. Donc, enfin, au cabinet, en tout cas. Quand je dis que je suis en colère contre les hommes, c'est aussi contre moi-même. La dernière fois, j'étais malade, je ne vais jamais chez le médecin. Je vais chez le médecin, il me demande ma mutuelle. Je ne connaissais pas ma mutuelle. J'appelle mon père en disant, c'est quoi ma mutuelle? Je fais, Catherine, c'est quoi la mutuelle de ton fils? Je suis comme les autres.
Bim.
Voilà.
Panayotis Pascaud, la médecine, elle est aussi très présente dans votre livre, à travers notamment les psys que vous consultez, l'hôpital, bien sûr, que votre père doit, où votre père se rend pour guérir, pour se soigner. Quelle expérience vous avez eue de la médecine, à travers notamment votre dépression? Puisqu'ici, on a un médecin avec nous, je trouve que c'est aussi un fil important de votre livre.
Alors, je vais répondre à votre question, mais déjà, j'ai une interrogation. Quand on est médecin et qu'on est malade, on ne se soigne pas soi-même?
Là, en l'occurrence, c'était pour aller faire une prise de sang.
C'est compliqué.
Je me vois,
Ça fait très toxico de se la faire soi-même. Ouais, je comprends. Et ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais si même les médecins ne soignent pas eux-mêmes, à qui faire confiance? Non, mais effectivement, la médecine, j'ai un gros chapitre sur l'hôpital dans mon livre parce que j'étais en couple avec un garçon qui a eu un gros problème au cœur, qui a eu un énorme problème au cœur, et je l'ai accompagné à l'hôpital et je me suis rendu compte en fait que son problème au cœur, c'était parce que c'était le jour même où il venait de prendre son premier appartement, et en fait c'était l'enfant qu'il était qui était en train de mourir, et j'ai essayé de le convaincre de ne pas prendre cet appartement et de continuer à vivre chez ses parents, parce que moi je suis parti beaucoup trop tôt de chez mes parents avec une colère, et en fait j'aurais été prêt à donner un bout de mon rein, un bout de mon cœur pour revivre les petits déjeuners avec eux, parce que ça me manquait, et surtout ça me détruisait de devenir un adulte. Je trouve que c'est vraiment horrible d'être un adulte, qu'il n'y a rien qui compte dans la vie à part être enfant ou avoir un enfant. C'est un autre débat. Et du coup, il y a eu un rapport, il y a un gros chapitre, je pense, d'une soixantaine de pages dans le livre sur l'hôpital et sur le rapport de la violence de l'hôpital. Mais par rapport aux médecins, moi j'ai la chance d'être accompagné, et je sais que c'est quelque chose dont je suis privilégié, d'être accompagné par un psychiatre et une psychologue. Pour le coup, psychiatre qui a voulu m'interner quand j'ai été diagnostiqué de cette dépression mélancolique, qui est vraiment la plus grosse des dépressions, qui est très particulière, qui est une dépression qui vous fait paranoïer en fait, hein, qui est très étrange, qui vous rend concrète vos plus grandes peurs inconscientes. C'est une maladie très étrange qui vous déconnecte du monde, ce qui d'ailleurs me permet.
Vous avez diagnostiqué relativement rapidement, vous diriez, ou
assez rapidement,
oui.
Ouais,
c'est ça.
C'est marrant, il a fait un pari. En 3 minutes, il m'a diagnostiqué. Je suis arrivé chez lui, j'ai fait une crise de larmes, je lui ai tout raconté, et il m'a dit, je pense savoir ce que vous avez. Et après, il m'a dit, mais je vous le dirai à la fin, on va d'abord en discuter une heure, vous allez me payer, et après, on va voir. Mais je pense que c'est très intéressant d'être suivi, et je me rends compte que ça aussi, c'est un problème générationnel, mais la santé mentale est vraiment très importante. En fait, je pense que, même d'ailleurs, il y a un grand lien, on pourra en parler longuement, un grand lien entre la santé du corps et la santé mentale. Moi, je parle beaucoup du fait que je suis rentré dans cette dépression. C'est une image, hein, évidemment, que c'est plus complexe que ça. Surtout, c'est une dépression héréditaire. Moi, je sais que je l'ai attrapé de ma grand-mère qui nous a quittés à cause de cette dépression. Mais en fait, à un moment, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à faire mon lit le matin. Et je me suis rendu compte que ça s'immisçait en fait, un petit peu par cette action, parce que je ne faisais plus mon lit en me disant « Mais à quoi ça sert? Je vais le défaire ce soir. » Et si cette pensée rentre, ça ne vaut plus le coup de vivre. Pourquoi je vais manger avec mes amis? Je pourrais les voir plus tard. Pourquoi je vais tomber amoureux de cette personne? On va se séparer un de ces quatre. Pourquoi je vais manger? Je vais chier dans 6 heures. Mais si en fait on laisse cette pensée rentrer, la vie n'est que faire pour défaire. Et c'était très étrange ce sentiment-là de perdre pied, parce que si on ne fait plus son lit le matin, je pense qu'on se dit que la vie ne sert à rien. Et c'est très étrange.
Mais c'est un peu pour la
vanité. J'avais jamais pensé à ça, et là maintenant je me dis, oh merde, il a raison.
Non, mais en fait. Mais pour le coup.
Bah, pas merci, hein.
Pour le coup, c'est vraiment cette question du vide que vous frôlez en permanence dans le livre.
Oui.
C'est la vanité, en fait, la vanité de toute chose.
Oui.
Et je trouve, Baptiste Boulieu, ce qui fait que vous tombez, j'ai l'impression, je me permets, mais dans ce livre, vous ne tombez pas dans la dépression, dans le vide, c'est que vous êtes animé en permanence par des émotions hyper fortes, notamment la colère, qui là, quand on vous écoute, on l'entend. Mais c'est vrai, enfin, je trouve, dans le livre, c'est ce qui ressort, mais qui est une colère militante, qui est une colère productive.
Oui, bah, après, le problème, c'est qu'on... On devient un peu agressif dans la rue. On devient un peu le taré du quartier. Mais dans le livre, je raconte... quand on s'occupe d'une femme qui vient avec une agrafe, qu'on doit lui retirer l'agrafe et qu'il y a le mari qui attend en salle d'attente, ben, on n'a qu'une envie, c'est d'aller casser la gueule du mari parce qu'on sait ce qui s'est passé, mais on ne le fait pas parce qu'il est grand et qu'on est lâche. Et qu'en plus, ça ne rendrait pas service à cette femme. Mais du coup, il y a de la colère qui monte. Et quand on a comme ça, au bout de 10 ans, tellement de colère, qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Et moi, à l'époque, je raconte dans le livre, j'habitais juste en face d'un Monoprix. Et mon entrée de parking était en face du Monoprix. Et il y avait toujours un connard, quand je rentrais le soir, comme ça, qui avait garé sa voiture devant mon entrée de parking pour aller faire ses courses au Monoprix. Et à chaque fois, je disais, j'en ai pour 5 minutes, ça prenait une demi-heure. Et ce soir-là, j'avais juste envie de rentrer chez moi, pleurer dans un pot de glace. Et j'arrivais, il y avait un gars qui s'était garé. Et je sors, je suis tellement furax, je rentre dans le Monoprix. Et on m'avait dit, ça marche avec du rouge à lèvres. Moi, je n'ai pas de rouge à lèvres sur moi. Et... peut-être le samedi soir, vous ne saurez pas. Et donc, je vais dans le Monoprix et j'achète du beurre. On me dit, ça marche aussi avec du beurre. Alors, je sors avec ma plaquette de beurre. Et je voulais écrire, ceci n'est pas une place de parking. J'étais tellement en colère, j'ai écrit, ceci n'est pas, mais j'ai trop appuyé sur le beurre, j'avais plus de beurre. Et donc, il faut acheter du 250 grammes, pas du 125. Et ça n'avait aucun sens. Je me dis, mais je ne veux pas devenir cette personne. Et le problème, c'est que jour après jour, on finit par devenir cette personne qui va acheter du beurre et qui l'écrase sur une voiture tellement il est en colère.
Je laisse la salle réagir au beurre. Je rebondis sur ce que vous dites par rapport à la colère. Je lis quelques lignes de votre livre. Il y a les patients qui n'ont peur de rien, mais qui sont pourtant en colère pour à peu près tout. L'être humain a ses mystères, telle Josette qui moisit en salle d'attente et guette le départ de Monsieur Soares pour prendre sa place au rendez-vous des bonnes choses. Josette est une vieille féministe. Tu vois, la plus féministe de tes copines féministes. Bien, c'est notre Josette. Elle a milité au MLF, puis a 2-3 trucs bizarres, genre les gouines rouges, mais en plus underground, qu'elle évoque à demi-mot. Le type de femme qui a toujours marché au son de son propre tambour. Vous avez une vraie capacité dans ce livre à croquer vos patients et vos patientes en quelques lignes. Est-ce que vous prenez des notes toute la journée entre deux rendez-vous pour pouvoir écrire ce genre de roman après ?
Josette, quand elle est morte, moi j'étais à la veillée en tant que médecin, donc on est resté toute la nuit jusqu'à ce qu'elle parte. On a trouvé une Kalachnikov enterrée dans son jardin, avec une valise remplie de vieux billets. Elle avait vraiment fait des trucs bizarres dans sa vie. Et pendant 24 heures, il y avait des Sud-Américains qui venaient faire la queue pour lui dire au revoir et pleurer sur son corps. Et ils se succédaient tous, on ne savait pas d'où ils venaient, tous ces Mexicains. Comme c'était, qui était cette femme ? Voilà. Mais moi, en tant que romancier, quand je vis ça, je me dis, mais je n'ai pas besoin de me réfléchir beaucoup pour écrire un roman. Quoi. Là, c'est... Merci Josette. Quoi. Voilà.
Ce qui aussi, effectivement, donc est très fort dans vos livres, c'est le rapport à la création. Puisque voilà, vous dites qu'en tant que médecin, vous observez, vous avez besoin d'écrire après pour donner sens aussi à tout ça, donner sens à tout ce que vous voyez. C'est un moyen aussi de consoler quelque chose quand vous écrivez, vous sentez que ça fait ça?
On est des machines en tant que romancier, on est une machine à transformer le réel, quoi, à le rendre parfois plus acceptable, ou alors aussi à se décharger de toute cette violence. Nous, notre métier, c'est d'accueillir la plainte, et c'est pas si facile. Et parfois, je pense qu'on a besoin aussi de coucher tous ces personnages sur le papier parce qu'ils sont beaux, qu'on les a vus, qu'on les a accompagnés, que parfois ils sont partis, et qu'on se dise, je me dis, si je parle pas d'eux, si je les écris pas leur existence qu'ils ont été, j'ai été témoin de leur existence, si je l'écris pas quelque part, et ben ce sera perdu pour toujours. Et moi, j'avais un sentiment de gâchis monstrueux, quoi. Enfin,
est-ce que je me demandais, est-ce que vos patients et vos patientes vous lisent ?
Non, non. Bien, alors, en plus, j'ai mon vrai nom, c'est mon nom de médecin, ça c'est mon nom d'écrivain. Et puis, je fais attention à bien séparer les choses. Et puis surtout, évidemment, je modifie toujours l'âge, le prénom, les sexes. En plus, on s'en fiche de savoir si c'est un homme ou une femme. L'important, c'est qu'il y avait une Kalachnikov dans le jardin, par exemple. Voilà. Et c'est l'histoire humaine, moi, qui m'intéresse. Et c'est ça que je veux raconter, parce qu'on en manque cruellement. On ne va jamais entendre. Mais c'est chose toute bête, quoi. Jean-Pierre Pernoud va jamais ouvrir le journal de 13 ans en disant il est mort, non ?
Oui.
Ah merde, le nouveau présentateur JT va jamais ouvrir le journal en disant
Josette
est morte, elle avait une Kalachnikov dans son jardin, ou dans un hôpital, quelqu'un a juste ramassé une vieille personne qui était tombée et l'a remise dans son lit. Et moi, j'ai envie d'entendre que ce geste quotidien, il est pratiqué dans tous les hôpitaux, tous les jours. Ça me ferait du bien de temps en temps d'entendre ça, je crois. Du coup, il faut l'écrire.
Et le fait d'exercer en cabinet, vous parliez aussi de la violence de l'hôpital tout à l'heure, ça, vous sentez que ça a un peu apaisé quelque chose chez vous, dans la proximité avec le patient, le temps que vous pouvez passer aussi en séance avec eux ?
Vous savez, à l'hôpital, les gens, ils viennent, ils sont tout nus sous des blouses, ils sont allongés, il y a plein de gens qui défilent dans leur chambre, parfois sans se présenter, ils ne savent même pas qui c'est. Ces gens savent tout de vous, alors que vous êtes très vulnérables. Et en plus, ils sont debout, vous êtes allongés, c'est pas la même chose. Enfin, les rapports sont différents. Moi, au cabinet médical, je suis habillé, la personne est habillée, on est assis tous les deux, on se fait face, il y a juste un bureau qui nous sépare. Le rapport de force n'est pas du tout le même, et j'avais envie de rétablir un petit peu un rapport de force plus équilibré.
Oui, parce qu'on sent aussi que vous avez un rôle avec ces personnages, ces patients, ces patientes, très quotidien. Ils viennent vous voir pour des petites choses, vous êtes un repère dans le quartier.
Après, ça, on ne peut pas aller chez les gens une fois par semaine, en visite par exemple, et ne pas finir par créer des. Enfin, on est humain, on choisit pas de tomber amoureux, on choisit pas de tomber, je sais pas comment on dit, en amitié ou en empathie avec les gens. Il y a des gens, tu vas les voir toutes les semaines, tu les entends, chérie, il y a le docteur, et puis un jour ils disent, chérie, il y a Baptiste. Et ben voilà, c'est comme ça. C'est notre métier aussi, quoi. Mais du coup, ça fait plus mal quand ils partent. Quoi.
Il y a une page. Panayotis Pasco, vous parlez aussi, vous dites, voilà, voir des amis, je m'en fous, la vie quotidienne, je m'en fous. Le seul truc qui, pour moi, qui m'anime, c'est la création. Je pourrais faire que ça. Cette obsession, elle a toujours été en vous. Quand est-ce qu'elle s'est exprimée pour la première fois, cette obsession de la création ?
Pour la première fois, il y a eu un drame un peu dans ma famille quand j'étais plus jeune. Moi, j'avais cette habitude, quand il y avait des longues journées, en fait, je gardais toutes les émotions en moi parce que j'avais été éduqué à ne pas les laisser transparaître. Donc j'avais vraiment cette boule de magma dont je parlais tout à l'heure qui fomentait un plan à l'intérieur de moi pour jaillir à un moment. Et en fait, le soir, j'arrivais pas à dormir tant qu'elle n'était pas évacuée. Et donc j'ouvrais mon petit Velux dans ma petite chambre et je regardais la lune et je fixais toutes mes émotions sur la lune et j'attendais qu'elle quitte mon champ de vision et les émotions partaient. Et un soir, j'étais assez jeune, je devais avoir une dizaine d'années, il y a eu un drame dans ma famille. Et j'ai pas su le gérer, j'ai vraiment passé la soirée à ne pas cligner des yeux. Et j'ai essayé de dormir, j'ai pas réussi, j'ai ouvert mon petit Velux, j'ai fixé la lune, j'ai mis toutes mes émotions dessus, la lune est partie et c'est resté. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu besoin d'écrire dans un petit journal que ma mère avait acheté, que j'avais jamais ouvert, pour essayer de faire sortir les choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que d'ailleurs, c'est pour ça que je continue souvent à écrire à la main, c'est mon membre en plus en fait. Ça, j'écris quelque chose, je ferme la page et c'est sorti de moi. C'est comme déboucher un bouchon d'oreille, c'est comme évacuer pour moi un bouton, un point noir, c'est du pu qui sort, c'est quelque chose qui a besoin de sortir, qu'on a besoin d'évacuer. Et j'ai toujours eu ce rapport-là à la création, j'ai toujours eu, c'est un surplus, il faut que ça sorte. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est un remède pour moi pour continuer à vivre, c'est une cicatrice. On vous plante un couteau, bah, à un moment, il faut que ça cicatrise, ça laissera toujours une petite trace, ce sera toujours en moi, mais ça a été évacué. Mmh.
Vous parlez à Baptiste de ce geste de déboucher l'oreille. Je précise que c'est dans le livre. Vous dites que vous adorez faire ce geste médical. Et c'est vrai qu'on pourrait presque dire que c'est une métaphore de la création. C'est ce que vous venez de faire.
Oui, moi je regarde des vidéos entières de gens qui expulsent des boutons. J'adore ça. Sur YouTube, ça existe. C'est fantastique.
Moi,
je dois l'incarner.
Moi, je le fais. Je suis payé en plus. Tu vois.
Incroyable.
Le rêve.
Incroyable.
Une reconversion peut-être.
Incroyable. J'adore ça. J'adore ça. Les poils incarnés, là, qu'on tire, et après on se dit, mais comment il peut faire 25 cm ce poil, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est tellement jouissif. C'est la création, c'est de la création, écoutez.
Pur. On a beaucoup parlé, on va terminer avec une question sur le silence, puisque le silence est au cœur aussi de vos livres, je dirais le silence familial, le silence du père, un silence peut-être aussi plus politique de votre côté, le silence effectivement sur les services publics, sur la médecine, sur les violences faites aux femmes. Est-ce que écrire, c'est aussi pour vous un petit peu essayer de consoler ce silence, ces silences, grâce à votre voix?
Ah, vas-y, commence.
Merci de m'envoyer la patate chaude.
C'est cadeau.
C'est très... Déjà, je peux le dire, parce que moi, j'ai mis 4 ans à écrire ce livre, c'est très dur d'écrire le silence. Ça paraît con comme phrase, on dirait une chanson de Bruel, mais... je dis pas qu'il est con, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est très difficile d'écrire le silence, c'est très difficile d'écrire des rapports qui sont taiseux. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la musicalité du silence dans l'écriture. J'ai l'impression que le silence, souvent, c'est de la maladresse, plus qu'une espèce de non-envie de partager. C'est souvent un... Moi, j'ouvre le livre en voulant à mon père, donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Moi, j'ai vraiment écrit une trentaine de pages. Je me souviens, quand j'ai appris qu'il allait mourir, j'ai écrit une trentaine de pages de suite en me disant « Mais pourquoi il m'a jamais parlé, ce monsieur ?» Et en fait, je lui en ai voulu pendant des années de ne pas dire et de ne pas faire, et je me suis rendu compte qu'il ne sait juste pas dire et pas faire. C'est une espèce de maladresse, c'est quelque chose qu'on ne lui a pas donné à lui et qu'il n'a pas su nous donner non plus. Et maintenant, j'essaie de parler, mais c'est compliqué, c'est la voie de la facilité de ne pas dire les choses. Moi, j'essaie, quand je suis amoureux, quand j'aime quelqu'un, même amicalement, j'essaie de le dire, j'essaie de le verbaliser. Je trouve que c'est très important, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire l'amour, mais on en a besoin. Et c'est très compliqué, c'est un acte, je trouve, contre-naturel de dire les choses qu'on éprouve, de les surligner. Des fois, j'ai l'impression de surligner des choses. Mais c'est hyper important et ça fait du bien. Et du coup, je cherchais le meilleur moyen d'essayer d'écrire ces moments un peu taiseux, ces moments qui sont rythmés par des bruits de soupe en silence à la campagne. À toi.
Non, mais, tu dis très justement, et tu le dis aussi dans le livre, que dans ton roman... que le problème, c'est aussi celui de la socialisation masculine. On ne nous apprend pas à pleurer, à montrer nos émotions, ou alors si on le fait, voilà, t'es une chochotte, voilà, ouais. Le garçon, ça pleure pas, etc. Ça explique d'ailleurs pourquoi, alors en France, mais je pense que c'est comme ça un peu dans le monde entier, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs émotions. Eux, c'est soit je vais bien, soit je me flingue. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux, je vais pleurer. Non, ça, voilà. Et même moi, je l'ai vécu en tant que... Après la mort de ce jeune patient, j'ai voulu aller voir quelqu'un pour pleurer. Je me dis, voilà, mes parents voyaient que je n'étais pas bien, que je n'arrivais pas à digérer ce qui s'était passé. Il va voir quelqu'un pour pleurer. Alors, je me dis, bon, bah, je vais essayer d'aller voir quelqu'un pour pleurer. Et je tombe sur un psy. Puis dès qu'il apprend que je vis avec un garçon, il me fait, votre mère. Alors que je voulais juste lui parler de cet enfant qui était mort. Et c'est comme s'il m'avait empêché le droit de pleurer pour cet enfant. En fait, si j'étais triste pour cet enfant, alors que n'importe qui aurait été triste ayant vécu l'intervention au SAMU que j'avais vécu, non, là, c'était forcément relié à mon homosexualité, à un problème, à un rapport avec ma mère. Donc c'est juste un enfant qui est mort devant moi. Je pense que n'importe qui aurait été ébranlé. Et il m'a empêché, comme ça, voilà. Et alors, je me dis, voilà, plus jamais je vais voir un psy, la prochaine fois, je me débrouille tout seul. Évidemment, au bout de 2 mois, je vais voir un psy, parce que ça allait pas mieux. Mais je vais voir une psy en me disant, les femmes sont moins connes avec ces histoires de garçons en short et tout. Et donc, j'arrive, et je vous préviens, par contre, voilà, je vis avec un garçon, mais je viens parce qu'un enfant est mort avec le SAMU, une intervention, et hors de question que je vous parle de ma mère, le précédent psy. Et au bout de 2 minutes, j'étais en larmes en train de parler de ma mère. Et la psy, elle me dit, c'est vous qui avez commencé, elle me dit la psy. Je dis, oui, bon, c'est vrai, c'est moi qui ai commencé. Mais voilà, mais du coup, c'est bien d'écrire tout ça aussi, parce que les psys, c'est pas toujours facile.
Moi, on peut parler des psys. Moi, j'ai une psy en ce moment, alors je débute avec elle. Mais elle fait un truc, je sais pas, j'en parle parce que je vous en parle parce que vous êtes médecin, donc on va pouvoir... Elle fait un truc qui m'énerve. Déjà, la dernière fois, elle m'a fait écrire un poème à mon cœur. Donc je l'ai payé 1 heure pour écrire un poème à mon cœur. Elle m'a dit, écrivez un poème à votre cœur, vous n'arrivez pas à communiquer avec lui. Et je me suis retrouvé, parce que je sais pas dire non, je me suis retrouvé à écrire... Cher petit cœur, j'ai fait un petit poème pour mon cœur. Et à la fin, je lui ai dit, je vous le donne. Elle a dit, non, non, c'est pour vous. Et j'étais là, j'ai fait 1 heure. Elle m'a fait faire du coloriage pendant 1 heure. Et à la fin, j'ai payé 100 balles. Et elle fait un truc qui m'énerve à chaque fois, c'est qu'à chaque fin de séance, elle me dit un truc de fou pour que je revienne la séance d'après. Comme si c'était une série sur Netflix. Et qu'il fallait que je regarde l'épisode suivant. Et la dernière fois, je vous jure, je pars, c'est elle qui m'a donné ce terme, je pars de la séance, elle me serre la main, elle me dit, en tout cas, je pense que votre père vous a colonisé mercredi prochain, même heure. Et pendant une semaine, je suis en panique et je me dis, elle vient de me dire que je suis l'Algérie, qu'est-ce qui se passe? Et ça me rend fou.
Mais ça, ça,
et les psys sont fantastiques.
Bah oui, ouais, qui vous laissent sur une phrase pour la semaine.
Ouais, c'est ça, c'est ça. On les aime pas pour ça. Hein.
Mais je me rends compte très étrangement, on est en train de terminer cette rencontre, mais que Baptiste, en vous écoutant, vous parliez effectivement du regard posé sur vous aussi en tant qu'homme homosexuel. On en a, alors que c'est aussi le cœur, mais il y a tellement de sujets en fait dans votre livre. Il y a aussi évidemment au cœur de l'autorisation à l'amour, le fait aussi que vous acceptez, vous reconnaissez que vous aimez les hommes et que vous sortez aussi d'un mensonge. Ouais. Un mensonge hétérosexuel quand même.
Mais c'est pas vraiment un mensonge en fait. Moi, je pense que j'ai été le pire enquêteur de tous les temps. J'ai mis tellement de temps à comprendre que j'aimais les hommes et je sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas du tout grandi dans une famille homophobe, dans une famille même pas. Enfin, vraiment, j'étais dans une famille qui acceptait, qui était très ouverte d'esprit, mais juste, je ne sais pas pourquoi j'ai mis extrêmement de temps. Et en fait, je pense que c'est parce que j'avais une image très précise de ce que je voulais être, parce que c'est ce qu'on impose aux hommes, en fait, de tu vas grandir, tu vas être celui qui impose, tu vas être celui qui pénètre. Et bizarrement, dans l'homosexualité, il y avait cette notion de je veux pas être l'autre, je veux être celui qui décide. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on insuffle dans l'hétérosexualité, dans l'imaginaire, dans l'idéalisation de l'hétérosexualité. Et j'avais une vie prévue, vie tracée, je me voyais à 30 ans avec une famille, une femme, un petit pavillon et une voiture. Et en fait... Y a les hommes qui sont arrivés et qui ont disrupté ce schéma que j'avais en tête. Donc ça a été très particulier, j'ai mis vraiment beaucoup de temps et je raconte le trajet que j'ai fait pour comprendre, qui a été un trajet très bizarre. Et moi j'avais besoin d'écrire ça parce que j'avais jamais vu une œuvre sur quelqu'un qui se questionne. J'avais vu des films comme, je sais pas, Call Me By Your Name, qui sont des films sur plutôt les gens qui ont la réponse mais qui se questionnent pas forcément. Et j'avais besoin d'écrire sur la question, sur le point d'interrogation. Et ça a été très étrange de se poser ces questions-là.
Et ce qui est aussi assez beau dans le livre, à travers le regard de vos patients et de vos patientes, je pense à l'une d'elles, je ne sais plus son nom, où vous lui dites, voilà, j'ai eu un enfant avec un homme, mais qui a une très très belle réaction. Presque c'est un sujet, quoi.
Mais c'est une patiente que j'adore et qui m'adore, elle vient depuis des années. Elle est musulmane, très pieuse, et à chaque fois, elle m'amène plein de cadeaux et tout, pour ma femme. À chaque fois, elle me dit, ah, voilà, pour votre épouse, elle m'amène toujours des djellabas avec des perles et tout. Florian va être content, mon compagnon. Bon. Et un jour, on s'aime tellement tous les deux qu'un jour, je dis, bon, il faut que je lui dise quand même. Parce qu'elle m'avait amené une djellaba avec plein de perles et tout, il faut que je lui dise quand même. Et j'attendais sa réponse, elle me dit, il pourra la mettre à l'intérieur, elle me dit comme ça. Ah, on... D'accord, ok.
Trop belle réponse. Merci à tous les deux pour cette rencontre.
Merci.
Merci. Merci.
Je tiens à préciser quelque chose, parce que c'est assez, assez cocasse par rapport à cette rencontre, mais mon papa a écrit des livres sur la politique. Et il est à Brive en ce moment.
Dans la salle.
Au stand L16. Donc si vous voulez aller croiser mon papa, vous pouvez aller au stand L16. Ça lui fera plaisir.
Et vous pouvez retrouver Baptiste et Panayotis pour signer des livres, si vous le souhaitez, au stand de leur maison d'édition. Merci beaucoup.
Merci à toi, merci beaucoup.
Merci. Merci.